Une vie, une œuvre, Pierre-Joseph Proudhon, 1809, Besançon, 1865, Paris. Né rue du Petit Battan à Besançon, Pierre-Joseph, fils de Claude-François Proudhon, commis marchand, et de Catherine Simonin, cuisinière, a été baptisé le 17 janvier 1809. Ses origines paysannes font sa fierté. Il abandonne vaches, grenouilles et écrevisses pour suivre les classes du Collège royal de Besançon en tant que boursier. À la fin de ses études, il a découvert Bossuet, mais perdu la foi. En raison de la faillite de l'entreprise paternelle, il doit travailler et devient typographe. Très vite, il s'attache à penser à un autre monde du travail et rédige de nombreux textes et quelques phrases connues comme « La propriété, c'est le vol » ou « Je suis anarchiste ». On lui doit aussi « La femme n'est pas seulement autre que l'homme, elle est autre parce qu'elle est moindre. Là où la virilité manque, le sujet est incomplet. » Et il s'est opposé à ce que la socialiste Jeanne de Rouen puisse se présenter aux élections. Louis-Laurent Grandadan signe, avec Yvon Croisier, « Une vie, une œuvre », Pierre-Joseph Proudhon.
En avant !
Paris, 1848.
Non loin, on entend la bataille. On se bat à 300 mètres des Tuileries. Là, dans les jardins, il y a près de 4000 hommes de troupes, parmi lesquels 3 bataillons de la garde nationale. Le roi passe tout d'abord devant une compagnie de lignards.
Vive le roi !
Mais un peu plus loin, les gardes nationaux de la première légion hurlent plus fort.
Vive la réforme !
La réforme ? Mais vous l'avez, mes amis, il n'y a plus aucun prétexte à l'agitation.
Proudhon a eu un parcours très original, et même, disons, exceptionnel.
Lorsque le cortège passe devant la 3e Légion, les bourgeois poussent de véritables vociférations.
Il est né dans un milieu à moitié ouvrier, à moitié paysan, avec un père brasseur, mais qui faisait de très mauvaises affaires.
Pauvre roi, il a 75 ans. Il tourne bride, regagne le château, où il s'affale dans un fauteuil près d'une fenêtre.
Et il a eu la chance d'avoir une bourse pour le collège de Besançon et qui lui a permis d'aller jusqu'au niveau bac.
L'émeute se rapproche. Des balles viennent s'écraser contre la façade du château. Le salon de Diane est ouvert à tout venant. La pièce est pleine de monde.
Donc il est entré comme typographe chez un imprimeur très connu de Besançon.
Sire, sire, il faut m'entendre.
C'est Émile de Girardin, le directeur de la presse, qui vient d'entrer.
Je vous écoute, monsieur de Girardin.
Sire. Les tâtonnements ministériels n'en sont plus de mise. Dans une heure, il n'y aura plus en France ni roi ni royauté. Il n'est plus qu'un mot qui corresponde à la situation. L'abdication.
Un lourd silence.
Oui, mon père. Abdiquer.
Eh bien, soit j'abdique.
Et c'est Gustave Fallot, cette personne qui est devenue son grand ami, lui a prédit un avenir exceptionnel.
Pierre-Joseph Proudhon, L'anarchie, c'est l'ordre. Par Louis-Laurent Grandadan et Yvon Croisier.
Proudhon est un des rares socialistes d'origine populaire au XIXe siècle. Sans doute que dans sa construction intellectuelle, Proudhon est d'abord l'enfant qu'il a été.
Thierry Menuel, économiste et membre de la société Proudhon.
C'est-à-dire un enfant des catégories populaires, dans le Besançon très bourgeois du XIXe siècle, qui est repéré par le conservateur de la bibliothèque municipale de Besançon et par ses professeurs comme étant particulièrement doué. Et il va vivre le fait de ne pas avoir de manuel, de ne pas avoir de dictionnaire, qui l'oblige systématiquement à apprendre par cœur l'ensemble de ses leçons, alors sans doute que ça va l'aider, mais ça va aussi le construire dans une idée qu'il est dans une situation particulière, dans une société où il n'a pas vraiment sa place.
Il n'a pas pu passer le bac car il n'avait pas l'argent pour payer l'examen.
Chantal Gaillard, membre de la Société Proudhon depuis sa fondation.
Et de plus, à ce moment-là, son père a fait une faillite retentissante, il n'avait plus d'argent et il ne pouvait plus continuer ses études. Donc il est entré comme typographe, car il avait une instruction très au-dessus de la moyenne. Il était très fort en latin et en grec, il a eu des prix dans ces deux matières. Et donc il a corrigé des épreuves du dictionnaire de théologie de l'époque, où il y avait beaucoup de latin, un exemple, la Bible, etc. Et du coup, il a été remarqué par un des écrivains qui étaient publiés chez cet imprimeur, et comme ayant des capacités exceptionnelles.
Par rapport aux économistes de son temps, qui sont souvent de purs théoriciens, et par rapport aux socialistes de son temps, qui n'ont pas forcément une expérience aussi fine de l'entreprise classique, il va pouvoir opposer un discours qui est un discours puisant à la fois dans la science économique et dans la pratique économique. Mais il se construit tout seul aussi, et il se construit en cherchant, j'allais dire, tous azimuts. Et il va s'intéresser autant à la philosophie qu'à la sociologie, qu'à l'histoire, qu'à l'économie, et partout dans sa pensée, il va chercher à mêler ces différentes approches. Donc, ça fait une pensée qui est riche, parce que il y a un sentiment très très fort du social, il y a la volonté de mêler toutes les approches des sciences sociales, et il y a la volonté de mêler les approches les plus théoriques avec les approches les plus concrètes, les plus pratiques.
Mais justement, il a toute sa vie eu d'abord conscience d'où il venait. Il n'en a jamais eu honte, au contraire. Il revendiquait cette origine populaire comme, disons, un titre de gloire. Et il s'était donné comme mission de, justement, défendre ce peuple dont il venait. Donc, Proudhon a gravi tous les échelons très rapidement à l'intérieur de l'imprimerie. Il est devenu prote, c'est-à-dire contremaître, et même à la fin, il a pu acheter une imprimerie. Bon. Mais ensuite, il a quitté l'imprimerie pour un autre travail, qui était d'être au départ commis batelier, mais surtout en fait avocat d'affaires, car il construisait les plaidoiries de ses patrons, donc ils avaient une entière confiance en lui, et donc il aurait pu continuer évidemment comme ça, en étant, même en étant pas mal payé. Il est parti finalement d'en bas, en arrivant en haut, évidemment, d'un point de vue intellectuel. Malgré tout, on peut dire qu'après, on peut dire 1848, c'est une date tournant, eh bien Proudhon a fréquenté surtout des bourgeois, des intellectuels, et beaucoup moins, et peu des gens du peuple.
On se bat entre la Seine et la rue Saint-Denis. La ligne tire sur les insurgés qui fraternisent avec la garde nationale. La fusillade crépite, les pavés se soulèvent, c'est l'émeute. La révolution. Tout va changer en un instant. Le signal va partir du boulevard des Capucines.
Voici les faits. Vers 9h du soir, l'aspect des boulevards est extrêmement animé. Au loin, on entend des fusillades, mais une foule dense de badauds se promène devant les magasins brillamment éclairés. La chute du ministère, si elle a peu ému les révolutionnaires, a paru un soulagement pour le gros public. Et il manifeste sa joie par des cris, des lazzis, des chants, une allégresse générale.
1848 est un moment en général oublié.
Michèle Rio-Sarcey, historienne.
Il va de soi que chacun d'entre nous sait que 1848 a abouti à la République. C'est-à-dire qu'on connaît davantage les effets d'une révolution, plutôt que l'événement. Alors 1848, c'est d'abord une révolution, ou plus exactement une révolte, où l'idée de liberté prend tout son sens, se concrétise. D'aucuns parleraient même de ce moment exceptionnel où tout est possible. En quelques jours, en trois jours, la foule. Le peuple, dirait Proudhon, les prolétaires, diraient quelques-uns, hommes, femmes, enfant. Et en 3 jours, la République a été proclamée. Inattendue. Cette révolution, disait un historien il y a bien longtemps, a été organisée par une poignée d'agitateurs parisiens qui ont su faire revivre la tradition révolutionnaire du peuple de la capitale. Une poignée d'agitateurs parisiens. J'ajouterais une poignée de prolétaires, une poignée de gens parfaitement conscients, éprouvés par les difficultés économiques des années précédentes. La question centrale, c'était de mettre en cause, transformer la situation et d'abolir la misère.
Alors, 1848, c'est le début de la Deuxième République qui prend finalement tout le monde de court. Ça commence par une révolution en février.
Anne-Sophie Chambost, historienne du droit, biographe de Proudhon.
Tout le monde est pris de court parce que bon, les choses allaient plus ou moins bien pour la monarchie de Juillet, mais le roi était relativement sûr de son coup, persuadé que les Parisiens ne faisaient pas la révolution en hiver. Donc l'hiver passait, les choses avançaient. Bon, il se trouve qu'effectivement il y a eu une interdiction d'une journée de manifestation lié au suffrage universel à Paris, donc interdiction, et ça a suscité un certain nombre de protestations. Et c'est comme ça que, à la surprise générale, donc survient cette révolution de février 1848. Proudhon à ce moment-là est à Paris. Proudhon est déjà connu puisque il est l'auteur d'une série de mémoires sur la propriété. Et en 1840, il a asséné à la monarchie de Juillet que la propriété c'était le vol, donc ce qui l'a rendu immédiatement assez célèbre. Il est jusqu'à présent plutôt porté sur l'économie, il se voit lui-même comme un économiste, socialiste, mais économiste, et l'économie prévaut sur le politique. Et en fait, la révolution, que comme tout le monde il attend, mais comme tout le monde donc va le surprendre, eh bien cette révolution va l'obliger à véritablement entrer dans l'arène et faire de la politique.
C'est par ses journaux, par la création de journaux et ses qualités de journaliste qui va être connu, j'allais dire, de la France entière. Puisque son premier journal a été publié à des moments importants du point de vue politique, jusqu'à 50 000 exemplaires, et même un tiré à part dans son manifeste électoral de Proudhon, eh bien, c'est allé jusqu'à 300 000 exemplaires qui ont été vendus en quelques jours. Donc c'était une célébrité, j'allais dire, avec une certaine magistère intellectuel, un peu comme Sartre après la guerre de 45, si vous voulez. Proudhon s'était connu, alors, dans la France entière, et ensuite, on verra, dans l'Europe entière. Puisque même en Amérique du Sud, au Brésil, ou donc en Russie, en Espagne, etc.
S'il avait autant de succès, c'est aussi parce qu'il avait une bonne plume.
Oui, Sainte-Beuve a dit que c'était un des plus grands écrivains du siècle, et c'est vrai que quand on le lit, et même dans sa correspondance, où il était nature, hein, disons, il ne cherchait pas à faire du style, c'est un écrivain remarquable. Il avait le sens de la formule, et d'ailleurs, c'est lui qui a lancé la fameuse formule « la propriété, c'est le vol », bien qu'il ne l'ait pas dit tout à fait comme cela. Il en était d'ailleurs fier. « Dieu, c'est le mal », ou alors « l'anarchie, c'est l'ordre ». Il est évident que ce genre de formule, ça vous rend célèbre, c'est sûr, mais parfois on peut le regretter, et Proudhon a parfois regretté aussi qu'on a réduit sa pensée à ces formules.
Alors, Proudhon, dès « Qu'est-ce que la propriété ?», dès le premier mémoire, a une renommée nationale et internationale tout à fait particulière. Ce n'est pas un hasard si, dès la Rheinische Zeitung, Marx cite Proudhon en bonne part, le reprend dans la Sainte Famille, les socialistes européens lisent Proudhon. En revanche, Proudhon apparaît comme un philosophe abstrait pour la plupart de ses contemporains. Alors ça se voit en 1848 parce que la révolution de 48 est une révolution qui va s'appuyer beaucoup sur l'image et la propagande. Et la presse, avec dessins à charge, notamment Charivari, le journal Pour Rire, La Silhouette, etc., commence à dessiner Proudhon d'une façon qui ne lui ressemble absolument pas. 1848 va faire connaître l'homme. Petit à petit, son visage est connu, il y a des portraits des députés qui sont faits, les dessinateurs le représentent et il est reconnu.
C'est-à-dire qu'il a, il est toujours resté nature. D'ailleurs, dans ses vêtements, avant d'être marié, il était très mal fagoté et il était célèbre pour être mal habillé, il faut le dire.
Et vous pouvez rentrer dans les détails quand vous dites qu'il était mal fagoté ?
Oui, il paraît qu'il avait une redingote. Ah oui, il avait des chaussettes en laine écrues, tout ça, des brodequins. Il allait à l'Assemblée, parce qu'en 48, il n'était pas encore marié. Il allait à l'Assemblée chaussé de brodequins avec des grosses chaussettes, un manteau qui lui battait les jambes et qui était mal, vous voyez, vieux, quoi, qui faisait un peu usagé, d'une couleur, un peu d'un vert. Enfin, quelqu'un lui avait dit vraiment. On savait que c'était Proudhon, avec ses lunettes, et justement, les caricaturistes s'en sont donnés à cœur joie. Et il faut le dire que Proudhon a été un des députés et des intellectuels les plus caricaturés. Alors son physique a été, on lui donnait à des moments une tête de singe. Franchement, il ressemblait pas à un singe. Mais bon, le caricaturiste, vous voyez, parce que on voulait le rendre ridicule.
Alors, Proudhon, dans les caricatures le représentant au début, n'a rien à voir avec la vraie personnalité de Proudhon. Un homme, un philosophe, à gilet, avec un grand chapeau, les cheveux longs. Et là, on voit apparaître le visage de Proudhon, lui ressemblant plutôt, avec ses petites lunettes rondes, son front dégarni, son collier de barbe. Ensuite, il y a dans le Charivari, ce qu'on appelle la semaine de Cham, avec des petits dessins, où là, il y a un Proudhon identique, mais beaucoup plus stylisé, qui apparaît un peu comme un personnage de bande dessinée. Et ce personnage-là va évoluer dans le temps et va devenir un personnage presque sympathique, un peu lunaire, cherchant une société meilleure, faisant un peu penser à un autre personnage, qui est Robert Macaire, qui est un personnage aussi, on dirait un peu de pied nickelé, d'escroc au grand cœur. Et donc, on a ces deux Proudhons qui coexistent dans le Charivari, un Proudhon politique contre la propriété, contre la famille, contre Dieu, contre tout, et ce Proudhon de la semaine de Cham, beaucoup plus léger, qu'on suit comme un personnage récurrent dans le Charivari.
Le Charivari contribue à faire de Proudhon ce fameux homme terreur, particulièrement effrayant.
Cham représente le personnage de Proudhon avec sa boîte de dératiseur et sa perche sur laquelle sont suspendus non pas des rats, mais des propriétaires. On représente Proudhon effrayé en lisant ses propres articles, les cheveux hérissés sur le crâne à la lecture du peuple parce qu'il découvre ce qu'il ose écrire. On représente Proudhon au moment de son discours à l'Assemblée nationale, avec le président derrière, avec une énorme cloche pour arriver à faire taire l'Assemblée nationale, scandalisée par les propos qu'il tient. On le montre toujours comme un ennemi de la propriété, de la famille et de l'Église.
Ce fut M. Crémieux qui dit au roi Louis-Philippe ces tristes paroles. Sire, il faut partir.
Le temps n'est pas loin, je l'espère, où chaque enfant de bonne foi ira demander à son père ce que c'était jadis qu'un roi, mais lui répondra non sans peine, débrouillant le fil des vieux ans. Un roi c'était Croque-Mitaine, il effrayait les grands enfants.
Séance de l'après-midi à la Chambre des députés.
Je demande que sur le champ, un gouvernement provisoire soit constitué.
Messieurs, au nom du peuple, je vous demande le silence. Je demande un gouvernement provisoire, non pas nommé par la Chambre, mais par le peuple.
Bravo!
Le gouvernement provisoire a été, si j'ose dire, élaboré quand même sur un coin de table.
Anne-Sophie Chambost.
Sous pression des Parisiens quand même, hein, puisque les Parisiens ont un souvenir quand même un peu ému de la révolution de 1830, qui leur avait littéralement été confisquée par la bourgeoisie. Donc cette fois-ci, ils sont attentifs à ne pas se laisser déposséder de leur révolution. Malgré tout, disons que le gouvernement provisoire, c'est une espèce de... comment dirais-je, d'assemblage un peu hétéroclite de républicains de la veille et de républicains quand même du lendemain. Hein. Vous savez, le 19e siècle, hein, c'est un siècle très changeant en France. Il y a des révolutions à intervalles quand même assez réguliers. Et en l'espèce, l'idée, c'est de dire qu'il y a les vrais républicains sincères, ceux qui le sont depuis longtemps, c'est-à-dire pour le plus long depuis au moins 1830. Donc ceux-là sont les vrais républicains, dépositaires justement de ce que doit être, de ce que devrait être une révolution républicaine. Et puis il y a quand même aussi, ce qui est assez logique, toute une fange un peu d'opportunistes qui embarquent dans cette espèce de nouvelle aventure révolutionnaire et qui vont se décréter républicains. Mais la différence entre les uns et les autres, c'est que les premiers, les républicains de la veille, poussent évidemment à une révolution complète, quand les autres considèrent que la révolution, d'accord, c'est la souveraineté populaire, d'accord, c'est le suffrage universel, mais on ne va pas plus loin. Donc ça va d'emblée créer des tensions au sein même, finalement, de cette élite révolutionnaire.
Alors qu'est-ce que Proudhon, précisément, reproche à ce gouvernement qu'il ne fait pas ?
Proudhon leur reproche donc le suffrage universel trop rapide, le peuple n'est pas prêt. Si vous ajoutez à ça que les élections vont être organisées dans un délai très bref, hein, la révolution a lieu fin février, les élections, alors au début étaient prévues pour début avril, finalement elles auront lieu fin avril. Ça ne laisse pas le temps justement aux républicains avancés, ça ne laisse pas le temps aux socialistes de faire l'éducation politique du peuple. Hein, donc on décrète comme ça le suffrage universel. En se doutant bien, c'est la crainte de Proudhon et d'un certain nombre d'autres, c'est que le peuple pas préparé va se porter vers ceux dont il considère historiquement qu'ils sont ses représentants, c'est-à-dire les bourgeois. Hein. Donc ça, c'est le premier grief. Le deuxième grief, Proudhon a proclamé d'emblée hein, qu'il était anarchiste. Ce qu'il reproche à cette révolution de février, c'est que c'est une espèce de révolution par en haut. C'est une révolution par l'État. Hein, gouvernement provisoire. Dans gouvernement provisoire, il y a gouvernement. Ça veut dire qu'on maintient le gouvernement. Et de fait, sa frustration, sa colère va cristalliser sur un nom, c'est Louis Blanc, auquel il va reprocher justement d'être un peu récupéré par cette révolution. Je précise que Louis Blanc voulait créer un véritable ministère du Travail. Le gouvernement provisoire le lui refuse, on le marginalise d'emblée. Mais malgré tout, voilà, pour Proudhon, Louis Blanc est un peu le symbole de cette pseudo-révolution, mais qui se fait par en haut. Pour Proudhon, une révolution, ça se fait par en bas. C'est le peuple lui-même qui doit être maître de son destin.
Michel Rieu-Sarcey, 1848, c'est aussi la naissance d'un personnage particulier, l'ouvrier.
Effectivement, la question des ouvriers est au centre et au cœur du moment. Tout le monde est proche de l'ouvrier. L'ouvrier a réussi à imposer la République. L'ouvrier, on l'admire. Il y a ce slogan « À genoux devant la casquette, chapeau bas devant l'ouvrier ». Pierre Dupont avait écrit des chansons qui étaient chantées lors des manifestations au moment justement où l'espoir était extraordinaire. Et on imagine ce que pouvait être une manifestation où les uns et les autres chantaient « Buvons, buvons ». Buvons à l'indépendance du monde. Et lorsque Louis Blanc a été désigné pour éviter qu'il y ait justement un ministre du Travail, a été désigné comme responsable de la commission dite du Luxembourg, où donc un certain nombre d'ouvriers allaient être désignés pour penser dans ce cadre un autre monde du travail. Eh bien, ils étaient près de 6 000 dès le 1er mars à se présenter pour dire quels étaient leurs objectifs. Et leurs objectifs étaient très clairs. L'abolition, justement, du marchandage, la diminution du temps de travail, 10 heures, et faire en sorte que tout change et on est persuadé que tout va changer. Alors, il y a eu quelques associations qui ont effectivement pratiqué, par exemple, la solidarité avec des salaires qui vont être distribués en fonction des difficultés et non pas en fonction du travail. Et ça veut dire qu'ils pensent, c'est pour ça que le travail de Prunon n'est pas inintéressant, parce que ils pensent qu'ils peuvent organiser non seulement le travail, ça veut dire la production, mais également contrôler la vente, la consommation. On pouvait imaginer que ceci pouvait fonctionner. Ça a donné les coopératives. Mais à ce moment-là, c'était vraiment le gouvernement direct des travailleurs. Alexis de Tocqueville, qui n'était pas favorable à cette révolution, est extrêmement clair. L'un prétendait détruire l'inégalité des fortunes, l'autre l'inégalité des lumières, le troisième entreprenait de niveler la plus ancienne des inégalités, celle de l'homme et de la femme. On indiquait des spécifiques contre la pauvreté et des remèdes à ce mal du travail qui tourmente l'humanité depuis qu'elle existe. Proudhon, voilà ce qu'il écrit le 22 mars, que chacun suivant son inclination en fasse son deuil ou s'en félicite, mais que tout se prépare à l'imprévu, car je vous le jure, la face du monde vient d'être changée. Royauté, monarchie constitutionnelle, système représentatif, classe travailleuse et classe bourgeoise, et bien d'autres choses encore. Chacun est persuadé que cette révolution va être la continuité et l'aboutissement, je dirais presque l'accomplissement des promesses de 89.
La révolution, effectivement, a reconnu d'emblée le droit au travail. Simplement, quand on reconnaît ce droit, il faut donner du coup du travail aux ouvriers. On a créé les ateliers nationaux qui ont embauché. Je précise que depuis 1846, la France traverse une crise économique majeure. Hein, donc il y a beaucoup de chômage. Donc les ateliers nationaux vont embaucher pour, évidemment, des salaires tout à fait dérisoires, mais c'est mieux que rien, il n'y a pas de chômage à l'époque. Hein. Et le problème, c'est que très vite, finalement, toute la frange, disons, conservatrice de cette révolution, les républicains du lendemain, considère que les ateliers nationaux, en réalité, c'est des écoles de socialisme, qu'on n'y fait rien, si ce n'est justement préparer éventuellement le peuple à descendre dans la rue, à prendre le pouvoir et à pousser plus loin cette révolution. Donc, après quelques semaines d'enthousiasme et de rencontres entre la bourgeoisie et les ouvriers, de nouveau, il va y avoir des tensions. Et la décision va être prise, je vais à l'essentiel, de fermer les ateliers nationaux. Donc si on ferme les ateliers nationaux, évidemment, ça veut dire qu'on jette de nouveau dans la misère des milliers d'ouvriers. Et c'est ce qui va provoquer donc ce qu'on appelle les journées de juin, dans lesquelles Marx verra évidemment l'archétype de la lutte des classes. Et ces journées de juin, ben, ça va être quelques journées, fin juin 1848, pendant lesquelles il va y avoir des manifestations populaires et une répression extrêmement sévère. Mais du coup, voilà, ce mois de juin, il est évidemment pour Proudhon et pour tous les autres, hein, mais puisqu'on parle de Proudhon, c'est vraiment un traumatisme pour lui, parce que de nouveau le peuple est descendu dans la rue et de nouveau il y a eu des massacres. Et à partir de ce moment-là, toute la réflexion de Proudhon va être quand même aussi de protéger le peuple. C'est-à-dire, là où les autres, quelques mois plus tard, les autres socialistes diront de nouveau en 49, il faut descendre dans la rue, Proudhon dira non. Non, non, on ne fait pas descendre le peuple dans la rue, il faut le protéger, il doit y avoir moyen de faire une révolution autrement. Cette espèce de violence révolutionnaire qu'il a vue au mois de juin 48 est pour lui quelque chose de très, très traumatisant.
Proudhon n'était pas sur les barricades, il s'est promené un moment, on l'a trouvé à la fusille. Enfin bon, non, il n'a pas participé, d'autant plus qu'il était plutôt à l'Assemblée. Il a contacté des gens, il a discuté avec des gens, mais il n'a pas eu le fusil à la main. Lui, ce qu'il voulait, c'est tout simplement des choses pratiques. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il n'y ait plus de chômage, que les artisans aient du boulot, que les ouvriers ne soient plus au chômage. Et la misère, il s'est aperçu de la misère. Et justement, une petite anecdote, en tant que député, il touchait donc beaucoup d'argent, enfin 25 francs par jour, c'était énorme pour lui. Eh bien, cet argent, lui a servi à aider. Il paraît qu'il avait, il habitait une chambre au troisième étage ou deuxième étage. Il paraît qu'il y avait la queue pour aller chez lui parce qu'on savait, les gens qui mouraient de faim, qui avaient besoin d'argent, ils savaient qu'il leur donnerait de l'argent. Donc, son indemnité de député a servi à aider les pauvres et aussi à aider sa famille parce qu'elle était pauvre aussi en ce moment. Et à la fin de sa mandature, il était aussi pauvre qu'au début, alors que le député était quand même bien payé. Alors donc, vous voyez, c'était lui, ce qu'il voulait, c'est déjà des choses pratiques. Parce que cette révolte, il la comprenait, elle a été le fruit de mesures comme les ateliers nationaux, qui étaient, d'ailleurs, qu'il a critiqué. Parce qu'il a pensé que c'était pas en donnant du travail, j'allais dire de façon un peu arbitraire, parce que tous les gens qui n'avaient pas de boulot, il fallait qu'ils soient terrassiers. Bon, il trouvait que c'était un débile. Hein. Donc lui, il voulait reprendre les bases du système économique par le crédit gratuit, par les contrats, enfin, si vous voulez, la coopération, etc. D'ailleurs, il a écrit que la révolution de 48 s'est trompée en ne prenant que des mesures politiques. Pour lui, ça ne pouvait pas résoudre les problèmes du peuple.
Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines ? Où vont les flots de nos sueurs ? Nous ne sommes que des machines. Nos pavés montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que de canons se taisent au monde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde.
La carrière de Proudhon comme député est vraiment décevante du point de vue donc très officiel de la restitution qu'on en a dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale, il intervient relativement peu.
Anne-Sophie Chambost.
Le seul discours fameux qu'on a de Proudhon, c'est le discours du 31 juillet 1848. C'est un discours qui porte sur le sujet qui lui est le plus cher, c'est-à-dire la propriété, ça donne lieu à une passe d'armes entre Thiers, Adolphe Thiers et lui. Et l'épisode a été plusieurs fois évoqué, en particulier par Victor Hugo dans Les Choses Vues, qui note des choses pas forcément très aimables sur Proudhon, mais qui raconte, et moi ça m'avait amusé, il raconte que quand Proudhon monte à la tribune, silence dans la salle, dans les rangs du public, enfin tout le monde se dit, puisque Proudhon est donc un peu connu quand même, comme étant l'adversaire de la propriété depuis 1840, donc on s'attend vraiment à des torrents de colère proudhonienne. Apparemment, donc, silence dans la salle, il commence son discours, nous dit Victor Hugo avec un fort accent byzantin, et assez vite, plus personne ne l'écoute.
Lorsque Proudhon arrive à la tribune,
Thierry Menuel,
il est attendu avant même son discours comme l'homme terreur. C'est-à-dire que l'Assemblée est en alerte, on se demande ce qu'il va oser dire, et il tient son discours. Et son discours finit dans une espèce de confusion où tout le monde cherche à interrompre la parole de Proudhon. Proudhon monte à l'Assemblée, à la tribune, pour défendre une idée forte qu'il a à ce moment-là, qui est l'idée de faire une banque nationale pour vous en garantir le crédit gratuit. C'est cette proposition qui va soulever évidemment l'opposition de l'Assemblée. Proudhon à un certain nombre de formules qui seront d'ailleurs reprises sur un certain nombre de médailles qui vont être publiées à la suite de son intervention. Et notamment, ils font conclure encore que la propriété qui n'existe que par la servitude est impossible dans une république et que ou la propriété emportera la république ou la république emportera la propriété. On rit, vive agitation. Je regrette, citoyens, que ce que je vous dis vous fasse tant rire parce que ce que je vous dis ici vous tuera. Oh, oh, nouveau rire, etc. Par la suite, à nouveau, du bruit, diverses interpellations sont adressées de plusieurs côtés à l'orateur. Le président doit intervenir, j'invite tout le monde au silence. L'orateur a la parole et peut expliquer sa pensée. Le citoyen Proudhon reprend, lorsque j'ai employé les deux pronoms « vous » et « nous », il est évident que dans ce moment-là, je m'identifiais « moi » avec le prolétariat et que je vous identifiais « vous » avec la classe bourgeoise. Nouvelle exclamation, le citoyen Saint-Priest, c'est la guerre sociale, etc. Et donc, on finit dans une espèce de cohue complète. Proudhon a du mal à finir son discours.
À l'issue de ce discours, l'Assemblée demande à voter un blâme.
C'est Adolphe Thiers qui va profiter d'une certaine façon pour se construire une place dans son camp. Il va apparaître dans la presse comme le principal pourfendeur de la pensée de Proudhon et il va déposer un texte pour censurer le discours de Proudhon, texte qui va recevoir 691 voix sur 693 votants. Seul Proudhon vote pour lui-même et un député de la région de Lyon, Grépeau, qu'on ne connaîtra d'ailleurs pratiquement que pour ça, et qui va lui être associé ensuite dans la propagande, que ce soit par le dessin ou dans les médailles, par la suite.
Ce discours, si vous voulez, se finit en plus par des considérations sur les Juifs qu'ils ne doivent plus apparaître. Je leur interdis d'apparaître, je crois que c'est l'expression de Proudhon, en précisant bien que quand il parle des Juifs, en fait, c'est la bourgeoisie d'affaires, hein, selon un résumé qui est assez... constant à l'époque. Oui, un blâme, mais un blâme parce qu'il a finalement il attaque la propriété, il remet en cause la légitimité de l'Assemblée elle-même, puisque dans ce discours, il dit mais que sommes-nous en réalité ? Nous ne sommes rien et le peuple déciderait de s'assembler lui-même, nous balayerait. Donc c'est une façon finalement évidemment d'attaquer, de remettre en cause la bourgeoisie, qui est dominante dans cette assemblée, de remettre en cause l'institution elle-même. Donc ça fait évidemment un peu beaucoup pour ses collègues de l'assemblée. À partir de ce moment-là, effectivement, la plupart d'entre eux n'attendront qu'une chose, c'est de s'en défaire. Et finalement, il se rend compte à ce moment-là qu'il est sans doute plus efficace comme journaliste que comme député. Pour lui, en fait, ce passage à l'Assemblée nationale... C'est un aveu d'échec. Il le dira d'ailleurs dans Les Confessions d'un révolutionnaire, qui est un livre qu'il publiera après coup et dans lequel il fait une espèce de bilan. Il n'est pas vraiment porté à l'autocritique, hein, d'habitude Proudhon, mais là, il admet effectivement que cet épisode n'est certainement pas le plus productif pour lui, parce que finalement, il le dit dans un passage justement des Confessions, il dit « il faut avoir vécu dans cette espèce d'isoloir. L'Assemblée nationale isole les députés du reste du peuple ». Et c'est comme ça qu'il explique finalement qu'il n'a pas vu venir les journées de juin et le drame que ça a été. Donc pour lui, c'est un échec personnel et en même temps, c'est la preuve que les institutions ne peuvent pas tout. On est prisonnier, le député est prisonnier de l'institution dans laquelle il se trouve.
Et justement, en accusé Proudhon d'antisémitisme, il n'a jamais publié une ligne là-dessus, mais il s'est un peu lâché parfois dans ses carnets. C'est vrai. Malgré tout, comparé à l'antisémitisme, j'allais dire revendiqué de Renan, par exemple, ou d'autres écrivains de son temps, Proudhon, je regrette, était beaucoup moins antisémite que d'autres.
Chantal Gaillard, vous nous avez dit qu'il faisait attention à ne pas être trop radical en public. Mais il a pourtant eu des mots un peu durs pour les femmes.
Disons que oui, parce que il était persuadé qu'une femme était intellectuellement incapable. Il avait horreur, comme on disait à l'époque des bas bleus, c'est-à-dire comme George Sand, qui d'ailleurs, je regrette, mais George Sand avait de l'admiration pour Proudhon, à part cette histoire des femmes, elle était quand même assez objective, elle voyait ses qualités intellectuelles. Donc, pour lui, la femme, c'était, comme dit, la courtisane ou la ménagère. Il faut dire qu'il était totalement aveugle face à cette volonté d'émancipation des femmes. Et c'est le point, on peut dire le point aveugle de Proudhon. C'est évident, il est indéfendable là-dessus. Et je pense que Proudhon, là-dessus, avait calqué son attitude sur celle des patriarches de la Franche-Comté dans le temps. Pour lui, dans une famille, c'était l'homme qui devait régenter tout, etc. Pour cela, il n'a pas évolué. Un blocage de sa part. Oui.
Donc, la Constitution a été adoptée. Je précise que Proudhon ne l'a pas votée. Et effectivement, il faut donc procéder à l'élection du président de la République au suffrage universel.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il refuse même ce principe ?
Il le refuse et en même temps il vote. Hein. Mais il le refuse un peu comme tout le monde. À ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup d'originalité de sa pensée. Il le refuse parce qu'il considère que c'est confier symboliquement trop de pouvoir à un individu. La France s'est défait à grand peine de la monarchie Et voilà qu'on fait une espèce de roi républicain, si vous voulez. Parce que, comme tout le monde, finalement, il redoute une chose. C'est que, à défaut d'une vraie culture politique, comment vont voter les gens? Les gens vont voter sur un nom. Et de fait, on sait que Louis-Napoléon Bonaparte n'a pratiquement pas fait campagne. Il a fait campagne sur son nom.
Pour revenir à notre ami Proudhon, puisqu'il n'est pas favorable à un système politique de représentation et d'élection d'un président, est-ce qu'il a conçu une organisation politique? Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'il propose?
Alors, donc Proudhon n'est pas un utopiste, hein, donc il ne propose pas un projet clé en main. C'est un peu la mode à l'époque, hein, puisque depuis les années 1830, on est véritablement dans le système des utopies. Proudhon se méfie des utopies parce que pour lui, l'utopie, c'est une espèce de communisme qui étouffe la liberté de l'individu. Donc, il ne va pas proposer un projet clé en main. Son alternative à lui, c'est finalement le mutualisme, c'est-à-dire un système dans lequel il n'y a pas d'État, hein, donc la société peut parfaitement s'organiser elle-même sur la base de la liberté d'association, parce que le mutualisme, c'est une infinité d'associations qui se coordonnent librement les unes avec les autres, liberté d'association et le principe économique de l'échange. Et sur cette base-là, finalement, la société peut sécréter elle-même son propre ordre. Elle n'a pas besoin de se voir imposer un ordre par l'État. Et on revient sur ce que je disais de la révolution de 48. Cette révolution étatique ne lui convient pas parce qu'il est bien convaincu, et depuis longtemps, que de la société peut sourdre un ordre spontané.
Georges Sand.
1848 est arrivé. Ce siècle, ce triste et grand siècle où nous vivons, s'en va à la dérive. Il glisse sur la pente des abîmes. Et j'en entends qui me disent : où allons-nous ? Vous qui regardez souvent l'horizon, qui découvrez-vous ? Sommes-nous dans le flot qui monte ou qui descend ? Allons-nous échouer sur la terre promise ou dans les gouffres du chaos ?
Proudhon est convaincu que la révolution ne se fera pas dans la Chambre des députés. Désormais, il pense qu'elle se réalisera dans une banque. Ce sera dans la banque du peuple. Olivier Scheibi, vous êtes enseignant en histoire et géographie et vous avez justement écrit un livre sur cette banque du peuple de Proudhon.
Eh bien, la Banque du Peuple qu'on attribue à Proudhon est un projet qui a vu le jour au début de l'année 1849, sous la Seconde République, une période où toutes les forces socialistes et du mouvement ouvrier étaient soumises à une forte répression du futur Napoléon III, lui Napoléon Bonaparte, qui venait d'être élu président. Et autant en février 1848, il y a un espoir de voir triompher une vraie démocratie sociale. Autant, à la fin de l'année 1848, les élections ont conduit des conservateurs et des libéraux au pouvoir et les chances de voir apparaître une démocratie sociale sont limitées et les forces vives du mouvement ouvrier sont pour beaucoup déjà réprimées en exil, en prison, soumises à la censure. Dans ce contexte, Pierre-Joseph Proudhon s'impose comme un des principaux opposants à lui Napoléon Bonaparte et comme un militant socialiste qui souhaite dans un premier temps la nationalisation de la Banque de France et qui dans un second temps va basculer dans l'idée de présenter un système très audacieux, très prétentieux, hein, puisqu'il prétend que c'est une véritable solution du problème social, que c'est un moyen de changer radicalement l'économie en faveur des travailleurs et de mettre fin au capitalisme. Il propose son projet de banque du peuple. La plupart des travailleurs sont obligés de faire recours à des usuriers, à des prêteurs sur gage, au monte-piété, des structures très usuraires. Et l'idée de Proudhon, c'est de supprimer l'intérêt d'arriver au crédit gratuit. quand le taux d'intérêt moyen pour un artisan, d'un ouvrier, c'est de 15 à 30%, on voit que c'est effectivement très favorable pour permettre à des artisans d'acheter du matériel ou de pouvoir louer un atelier, parce que c'est ce qui leur manque principalement à l'époque, et c'est ce qui explique en grande partie une crise économique majeure au 19e siècle, qui voit pour la première fois apparaître cette famine des temps modernes, entre guillemets, à savoir le chômage qui n'existait pas évidemment dans les sociétés rurales. Par ailleurs, avec la création du bon d'échange, la monnaie de la Banque du Peuple, il y a cette idée que le peuple peut émettre sa propre monnaie lui-même. Donc on a, à travers la Banque du Peuple, la paternité de deux grands mouvements qui vont se développer au 19e, au 20e siècle et jusqu'à nos jours. D'un côté, les banques coopératives ou mutuelles. Et puis, de l'autre côté, plus récemment, un système qui peut faire aussi penser au système d'échanges locaux, dans lesquels justement des citoyens font le choix de créer leur propre monnaie pour échanger entre eux des biens et des services indépendamment de tout système bancaire.
C'est ce qu'on appelle des SEL. Tu ne me trompes pas, les SEL.
SEL, effectivement, un système d'échange local dont on voit de plus en plus d'éclosions et d'exemples aujourd'hui à travers les monnaies locales et complémentaires.
Alors, la Banque du Peuple est effectivement l'un des vecteurs d'une révolution économique, hein, pour le coup pas une révolution politique, mais c'est par le biais justement de ce changement économique majeur que Proudhon considère en effet possible de faire advenir la révolution. Alors, la Banque du Peuple, il y a l'idée... Et la réalisation. La réalisation est catastrophique, évidemment, puisque Proudhon va essayer de prendre de court un peu tout le monde. Je crois qu'il annonce une série d'associés, mais les gens ont été embarqués malgré eux dans cette association. Donc la réalisation n'est pas du tout probante.
Alors pourquoi la Banque du Peuple n'a pas fonctionné immédiatement? Pour des raisons proprement politiques. Proudhon, c'est un opposant au futur Napoléon III. Il écrit beaucoup et il dénonce beaucoup la politique de lui, Napoléon Bonaparte. Et cela lui vaut d'être condamné à 3 ans de prison. Il voit bien qu'il ne pourra pas gérer sa banque et il décide de la liquider. Mais à peine il a liquidé la banque que... immédiatement, tous les gens qui étaient autour de lui ont continué le projet à travers une mutualité des travailleurs. Donc on voit bien la continuité entre Banque du Peuple et mutualisme. Malheureusement, cette mutualité des travailleurs, la plupart des gens qui ont contribué à la bâtir se sont retrouvés, eux, réprimés dans une manifestation le 13 juin 1849. Ça a mis fin immédiatement à la mutualité des travailleurs.
Donc il est tombé sous le coup de la nouvelle loi de la presse. Donc, il a eu droit à un procès où il a été condamné à 3 ans de prison.
Chantal Gaillard.
Qu'il a fait les 3 ans de prison. Et donc, mais malgré tout, durant ces ans de prison, en tant que prisonnier politique, il avait un statut spécial, une chambre pour lui, une très belle chambre. Il pouvait sortir, donc c'était prévu des permissions de sortie, et donc il a pu d'ailleurs se marier, avoir des enfants, enfin bon, et en même temps recevoir. Il recevait, par exemple, Michelet, Victor Hugo est venu. Proudhon passait son temps à lire et à écrire. Disons que ça a été un moment très fructueux du point de vue intellectuel. Puis il a réfléchi sur la révolution de 48, sur ses échecs, et donc sur ce qu'il fallait pour changer le système. Et il sortira de prison en 52, en juin, et là, il est évident qu'il ne peut plus avoir de carrière politique, ni faire de journalisme. Il a essayé, jusqu'à sa mort, à avoir un autre journal, de créer encore des journaux. L'autorisation lui a été toujours refusée. Et donc, finalement, c'était, comme je l'ai dit, l'homme terreur, c'était quelqu'un qui sentait le soufre et qui n'a pas pu avoir de nouveau un rôle politique. Qu'est-ce qui lui restait ? Eh bien, à écrire. Alors, un moment, d'ailleurs, en 52, c'est important, il a essayé de reprendre une carrière d'homme d'affaires. Il avait essayé de créer une compagnie de chemin de fer, etc. Oui. Mais, chaque fois, le ministère de l'Industrie, par exemple, les gens au pouvoir lui interdisaient, par exemple, de créer une société par action avec d'autres, etc. Donc, il a été interdit, il a senti, et aucun grand patron n'a voulu le prendre. Même ses amis, ils n'ont pas osé le prendre. Donc, il était vraiment pestiféré. Et du coup, il a écrit dans sa correspondance, il ne me reste plus que l'écriture. Donc, il s'est mis à écrire plusieurs ouvrages. Bon, d'ailleurs, le manuel de spéculateur en bourse, donc, par exemple, qui a eu un succès fou, il n'avait même pas signé au début. Mais ça a eu tellement de succès qu'il a fait une préface à la 3e édition, puis il l'a signé. Mais pour dire, donc, il n'avait que de sa plume, jusqu'à la fin de ses jours. Mais il lui est arrivé un autre ennui, c'est qu'en écrivant de la justice, donc, cet ouvrage est tombé, a été l'objet d'un nouveau procès. Il a été condamné de nouveau à de la prison, à une amende, et cette fois-ci, non, il n'a pas eu le courage, en plus avec sa famille et ses enfants, à refaire de la prison, et il est parti en Belgique. Voilà. Donc, il savait que jusqu'à la fin de ses jours, il fallait qu'il écrive. Et c'est pour ça, le problème pour lui, c'était que sa santé, à partir de 54, était beaucoup détériorée à la suite de son choléra. Et du coup, il avait des moments où il ne pouvait plus écrire, tellement il souffrait de la tête, enfin, et de fatigue intense, il a eu des angines, il a eu, bon, plein de maladies. Sa santé s'est peu à peu détériorée jusqu'à sa mort en 65, en janvier 65. Mais il n'avait pas fini toute son œuvre, quoi. Plusieurs ouvrages ont été publiés après sa mort.
Pierre Dardot, philosophe, ancien militant trotskiste. Vous êtes un intime de Marx depuis votre jeunesse et un peu plus récemment de Proudhon. Ces deux personnages importants du socialisme se sont rencontrés. Quelles ont été leurs relations ?
Alors, leurs relations ont été assez complexes, dans la mesure où, au début, ils se rencontrent en 1844 à Paris. Ils ont des discussions, des conversations jusque fort tard dans la nuit, auxquelles Bakounine va se joindre pendant un certain temps. Et ensuite, il se trouve que Marx est condamné à l'exil par le gouvernement de Guizot. Il se réfugie à Bruxelles, en Belgique, et ils se perdent un petit peu de vue. On peut dire que jusqu'en 1846, les relations sont quand même, sur le fond, assez cordiales. Mais la brouille va véritablement éclater en 1847, lorsqu'il va y avoir le système des contradictions économiques ou la philosophie de la misère. Et Marx répond par un pamphlet d'une très grande violence polémique dirigée contre Proudhon qui s'appelle justement « Misère de la philosophie ». Et là, c'est la rupture. La rupture, mais vraiment pour des années. Et même jusqu'à la fin, puisque Proudhon mourra sans que il y a eu de tentatives, la moindre tentative de la part de Marx de renouer les liens avec lui.
Pierre Dardot, à l'époque où vous étiez un militant trotskiste, quelle idée vous faisiez-vous de Proudhon ?
Ouais, l'idée était celle que la plupart des militants trotskistes de l'époque partageaient, c'est-à-dire une idée assez, assez négative, hein, parce qu'on considérait que Proudhon était un espèce de petit bourgeois qui voulait tout concilier l'inconciliable, c'est-à-dire, comme le disait Marx justement en 1847, c'était quelqu'un qui voulait estomper ou atténuer les antagonismes de classe, alors que nous estimions au contraire, en bon marxiste et en bon trotskiste, qu'il fallait les aviver et les rendre, comment dirais-je, extrêmement aigus. Voilà, donc il apparaissait comme un conciliateur. C'est la formule d'ailleurs de Marx en 1847, il cherche à concilier tout. Voilà. Bon, il comprend rien, voilà. Les jugements négatifs, je l'ai conservé pendant très très longtemps.
Et après avoir envisagé les points de conflit, l'influence de Proudhon sur Marx, est-ce qu'elle a existé ? Est-ce qu'il y a des points de convergence ?
Alors, elle a existé, mais d'une façon un petit peu, souterraine. C'est-à-dire, Proudhon est très influent dans la Commune de Paris. Il est très influent auprès d'une minorité, qui est la minorité proudhonienne, mais en même temps, elle est très active, parce que c'est elle qui va élaborer la doctrine de la Commune. Et ce sont des proudhoniens, Pierre Denis, Gustave Lefrançais, qui vont être à l'origine de certains des textes les plus fameux de la Commune de Paris, le manifeste du comité des 20 arrondissements de Paris, et puis, bien sûr, la déclaration de principe de la Commune d'avril, du 19 avril, qui est un document fondamental dans lequel on trouve la marque très précise de l'influence des idées de Proudhon. C'est vraiment la Commune qui est l'unité naturelle à partir de laquelle l'État doit être refondé.
Mais il n'y a pas d'autres points sur lesquels il a une dette qu'il ne reconnaît bien sûr pas, notamment sur la question de la plus-value.
Alors, sur la question de la plus-value, effectivement, il y a une idée qui est émise par Proudhon, qui est une idée extrêmement forte que Marx va reprendre sans indiquer la provenance, et il va la passer à la moulinette de sa propre théorie dans le Capital, dans les chapitres sur la coopération notamment. Mais il s'agit d'une idée très forte, c'est l'idée d'une force collective spontanée. C'est l'idée que finalement, il y a une force sociale, une force collective, qui résulte de la mise en commun des forces individuelles, mais qui est irréductible à la somme des forces individuelles. C'est ce qu'il appelle l'aubaine. L'aubaine, pour lui, c'est le terme qui désigne cette exploitation de la force collective par le capitaliste propriétaire. Il prend l'exemple célèbre, qui est l'exemple de l'obélisque de Louxor, et il dit il faut 200 hommes pour le mettre sur pied, le dresser comme ça sur son socle. Et il fait cette remarque-là, voulez-vous que ce soit un seul homme qui est employé 200 jours ? Pour le capitaliste, il n'y a aucune différence. Parce que, effectivement, 200 hommes pendant une journée ou un seul homme pendant 200 jours, ça revient au même du point de vue de sa comptabilité. Mais l'essentiel est justement complètement occulté. L'essentiel, c'est que quand vous avez mobilisé et concentré les forces de 200 hommes pendant quelques heures, vous avez construit une force collective, et cela, bien sûr, vous ne le rétribuez pas si vous êtes un capitaliste.
Pierre Dardot, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un retour de Proudhon ?
Alors il y a un regain d'intérêt, très certainement, pour le proudhonisme, et c'est heureux, c'est fort heureux, parce qu'il n'y a aucune raison de maintenir cet auteur dans une situation de marginalité parfois infamante, du point de vue de l'orthodoxie marxiste, c'était souvent le cas. Au contraire, il y a chez Proudhon un certain nombre de choses très importantes. L'idée de la force qui naît de la coopération des forces individuelles, ça c'est une idée qui me paraît effectivement très 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 importante. On peut pas réduire toute l'exploitation du travail salarié à l'exploitation ou au vol ou à la captation de cette force collective, mais il y a certainement là une dimension qui doit être valorisé, parce que finalement ça rejoint ce qu'avec Christian Laval nous appelons la mise en commun, puisque finalement cette force collective est issue de la mise en commun des forces individuelles, et donc il y a là quelque chose en effet de très important. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que le contrat ne peut pas être généralisé à toutes les relations sociales sans danger, parce que aujourd'hui par exemple ce sont plutôt les néolibéraux, quand ce ne sont pas les libertariens, qui veulent à tout prix mettre le contrat à la place de la loi. Donc il faut faire assez attention. Mais il y a quand même, dans cette idée d'une association volontaire à partir des initiatives locales, parce que c'est ça, dans le communalisme de Proudhon, qui est important, il y a quelque chose de tout à fait important et qui doit être repris aujourd'hui dans les conditions qui sont celles de notre combat politique.
Merci.
Non, non, vas-y, arrête ça. Vas-y, jette-la directement, putain.
Je continue de me donner le droit de penser. Aucune classe protégée, au pouvoir illimité. Manipule ce monde immonde où la terre n'a plus ronde. Sans se punir au mort, car la raison du plus fort résonne. Car toi te donne l'or. De te s'y mettre et d'accepter qu'on sort à tort. Sans te battre ni combattre, le pouvoir absolu détenu. Avec la buveur des individus. Plein de vices, mais plein de vices. Plein de vents, de sang, de fatigue. Alors je conteste par la prime, par le carton de mes rimes. Le fait que le pouvoir puisse décider seul du sort du monde qui compte sans cesse, sans faiblesse, cherchant la solution à leurs problèmes futurs. Ceux qui prennent de l'envergure au fur et à mesure que le temps passe, oui, leurs pensées passent vers le pouvoir en place. Mais pas digne, la puissance est un signe révélateur. Oui, je l'affirme, ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Il faut que tu le saches.
C'était Pierre-Joseph Proudhon, L'anarchie, c'est l'ordre, par Louis-Laurent Grandadan et Yvon Croisier, avec Anne-Sophie Chambost, Chantal Gaillard, Michel Rios-Arcet, Olivier Chaibi, Pierre Dardot et Thierry Menuel. Archive INA, Arnaud Plançon. Une vie, une œuvre. Attaché de production Claire Poinsignon. Coordination Irène Omelianenko.
Cette émission est disponible en podcast un an et en réécoute à vie sur le site de France Culture. Dans quelques instants, rendez-vous avec Étienne Klein pour la conversation scientifique. Samedi prochain, Une vie, une œuvre sera consacrée au cinéaste Jean Renoir.